Au FM 93, vous écoutez Le 5 heures avec Pierre Blais. Le 5 heures.
Vendredi, oui, vendredi le 31 juillet de l'année 2020. Quand je pèsais sur le piton dans un instant, là, je vais finir de m'installer, je vous le jure. Bon, c'est fait, ou presque. Vendredi matin, 31 juillet, dernière journée du mois de juillet de l'année 2020 déjà. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que dans quelques heures, on aura 7 mois de cette année de boîte de passé. Année de boîte, bah, peut-être pas au quotidien, là, mais quand on regarde ça dans l'ensemble, on n'a pas ben le choix de dire que c'est une année de boîte. Hein? On a déjà eu plus de fun collectivement. On a déjà été un petit peu moins tiraillés collectivement. A déjà été un petit peu plus libre. Pas d'une dictature, mais on a déjà été un petit peu plus libre. Ça va bien ce matin? Content de vous savoir au rendez-vous encore une fois. C'est le 25226 pour nous joindre. Vous savez que vous pouvez m'écrire, nous écrire en tout temps au cours de la journée. N'importe quand, c'est possible de le faire. Il suffit de prendre votre téléphone, d'écrire 25226 comme destinataire. Pas bien compliqué. Et d'envoyer le message que vous voulez recevoir, que vous voulez nous envoyer, puis nous on vous envoie une accusé réception de tout à fait automatisée, mais on vous lit. Sachez qu'on vous lit. C'est pas parce que vous recevez une espèce de message générique qu'on ne vous lit pas. On vous lit. 25226. On a 18 degrés actuellement à Québec. C'est nuageux avec éclaircie, semble-t-il. Éclaircie, où es-tu? 25 en après-midi. Peut-être de la pluie aujourd'hui, mais des très faibles quantités et très faibles probabilités. On parle de 40 % de probabilité d'averse, 1 mm ici et là au cours de la journée. Bon, je sais même pas pourquoi je vous parle de pluie. Demain, même chose, 27 degrés, 20 % de probabilité d'averse. En d'autres mots, une très belle journée qui s'annonce. Au contraire de dimanche. Dimanche, 29 degrés, oui, mais 60 % de probabilité d'averse de 10 à 15 mm de pluie. C'est plate, mais c'est ça. C'est de la pluie en masse pour la journée de dimanche. Alors, aussi bien en profiter au cours des prochaines heures. Demain, quand même, c'est pas mal.
Quiet on the set. Can we please have quiet on the set?
Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu.
By reading the paper, they tell me I care about the wolves now.
Lis la presse!
Êtes-vous des bébites d'habitude, vous autres? Ah, c'est une bonne question. Vous posez au 25226. Êtes-vous des bébites d'habitude? Ce que ça veut dire, quoi? Hier soir, moi, je me suis couché une heure plus tôt qu'à l'habitude en me disant « Quelle grande idée! » Ça va être fantastique. Tu vas récupérer du sommeil que tu n'avais pas depuis quelques jours, puis tu vas te réveiller revigoré, plein d'énergie. J'avais battu mon cadran tout le reste de la semaine, puis ce matin, ça a tout pris pour se lever. C'est ça qui arrive, hein? On bouscule les habitudes, ben, ça bouscule le corps humain. 25226. Êtes-vous des bébites d'habitude? Puis quelles habitudes, surtout, évidemment? Moi, c'est ce que je veux savoir. Pas aller juste dans le oui ou non, on veut savoir ce que ça signifie. On est là pareil ce matin quand même. Quelques nouvelles en rafale, je vous donne le détail de l'autre côté de la pause. D'abord, les travaux, je vous amène à Montréal pour commencer. On se dit que ça va mal un peu partout, mais il y a des places où ça va moins bien qu'ailleurs. À partir de 2022, il y aura des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Vous vous dites, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez raison, très bonne nouvelle. Mais à partir de 2022, il y aura une voie de moins dans chaque direction. Et ça va coûter à peu près $1 milliard rénover le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Justin Trudeau, hier, était devant le comité, au sujet de cette histoire controversée des liens avec We Charity, etc. Ben, lui, ce qu'il dit, c'est tout simplement, je ne suis pas en conflit d'intérêts, je ne l'ai pas été. J'ai été un peu maladroit sur certains dossiers, là, par la perception notamment, mais pour le reste, je n'ai rien fait de mal. C'est la version de Justin Trudeau. Le Nouveau-Brunswick accepte de laisser entrer certains Québécois, mais là, réjouissez pas trop vite, là. Ça ne vous réjouissez pas trop vite. Ça ne vous concerne probablement pas, même si vous êtes à l'écoute ce matin. C'est principalement les régions limitrophes, là, notamment la MRC du Témiscouata, le MRC d'Avignon et quelques endroits chez les Premières Nations, donc des gens qui sont très près de la frontière, voilà, avec le Nouveau-Brunswick. Ce sont ces gens-là qui pourront séjourner là, puis vous allez comprendre qu'il y a certaines restrictions, puis ça en sont des vrais. Bon, masque obligatoire dans les écoles. Québec n'entend pas imiter l'Ontario. Ce que ça signifie, c'est qu'au Québec, il n'y aura pas de masque obligatoire dans les écoles pour les élèves, mais il y aura de la distanciation. En Ontario, c'est l'inverse. Aucune distanciation, mais masque obligatoire dans les écoles. Je vous donne les détails également de l'autre côté. Québec veut sévir contre les rassemblements hostiles aux consignes sanitaires. Il ne faut pas penser qu'on entre dans un état policier non plus, là. C'est lorsque le message est explicitement envoyé contre les mesures sanitaires qui sont demandées par le gouvernement et qui ont infraction aussi. Il faut constater infraction de ce que j'ai compris. Mais vous aurez des détails de la part de la ministre Geneviève Guilbeault qui a également annoncé que le SPVQ, la police de Québec, va pouvoir mener des opérations lors de prises d'otages et de fusillades. On pense évidemment à cette histoire à la mosquée il y a quelques années, mais en général, et pour couvrir davantage de territoire, lorsque la SQ a peut-être... des enjeux de déplacement, par exemple, ben le SPVQ va pouvoir intervenir, pas juste à Québec, là, un peu partout dans la province. Tramway maintenant, 34 nouvelles questions du BAP à la Ville de Québec, des questions relativement intéressantes. La Cour suprême accepte d'entendre l'appel de l'humoriste Mike Ward. On vous en a parlé hier pendant l'émission. Je veux quand même y revenir parce qu'il y a des éléments importants à souligner. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qu'on doit savoir ce matin, mais vite, vite, là. Vite, vite, dans l'actualité, des détails, on en aura de l'autre côté de la pause, mais avant...
Je suis pas un athlète, moi je suis un baseballeur.
Essaye.
Yes! Oui!
Parce que le sport, c'est la vie. 2-0, la victoire des Prédateurs de Nashville sur les Stars de Dallas. Hier, c'est Arvidsson qui a marqué ses premiers deuxièmes de la reprise des activités. Je sais pas comment on va dire ça, puis comment on va s'habituer à le dire. En tout cas, victoire des Prédateurs de Nashville, 2-0. Les Bruins ont perdu 4-1 face aux Blue Jackets de Columbus. C'est Pasternak qui a marqué le but dans la défaite pour les Bruins de Boston. Jenner, Werenski, Nyquist et Texier ont marqué pour les Blue Jackets. C'est dans le dernier match à l'affiche hier soir, 4-1, la victoire des Golden Knights de Vegas sur les Coyotes de l'Arizona. Riley Smith a marqué ses premiers et deuxièmes. Tuck et Cousins ont marqué également pour les Golden Knights de Vegas. C'est Taylor Hall qui a été le seul à marquer pour les Coyotes de l'Arizona. Ce soir, pas de match, mais demain, oh que oui, le Canadien amorce sa quête d'une 25e Coupe Stanley. Ou les plus pessimistes, là, placez-vous dans le camp que vous voulez. Le Canadien amorce sa très courte dégringolade face aux Penguins de Pittsburgh. Dégringolade qui pourrait ne durer que 3 parties parce que c'est un 3-5 qui s'amorce demain soir face aux Penguins. 20h, c'est le moment où le match sera présenté. C'est présenté à NBC, CBC, TVA Sports, Sportsnet, mais surtout ici au réseau Cogeco avec deux des meilleurs de la business. C'est Danny Dubé et Martin McGuire. Il y a d'autres séries dans le genre qui s'amorcent demain. Rangers Hurricanes, Blackhawks contre Oilers, Panthers contre Islanders et Jets contre Flames. Ça peut être très, très bon. Jets contre Flames. Le Canadien joue aux deux jours, donc les 1, 3 et 5 août. Il y a par la suite, il y aura un petit twist de calendrier, là, mais au moins pour les trois premiers matchs, probablement les trois seuls matchs de cette série-là, les premiers 3 et 5 août prochains. On avait un Red Sox et Yankees. Attendez un petit peu, je vais rafraîchir cette page qui n'est pas fraîche du tout. Oh non, ça sent mauvais. Non, vraiment pas frais cette page. Des scores du côté du baseball majeur. Puis la raison pourquoi je vous parle de baseball majeur, c'est que ça continue à jouer. Ça continue à jouer malgré tous les problèmes, parce que des problèmes, il y en a en tabarouette, notamment la série des Phillies et des Jays qui devait débuter ce week-end, n'aura pas lieu. En tout cas, elle a été reportée. Les Phillies ont accueilli les Marlins de Miami en ouverture de campagne la fin de semaine dernière. Et plusieurs installations après des tests positifs à la COVID-19 ont été fermées au parc des Phillies de Philadelphie. Résultat, ils n'ont pas joué leurs deux matchs depuis dimanche. Notamment, le dernier match de la série contre les Yankees a été reporté. Et là, aujourd'hui, on devait amorcer une série de trois matchs face aux Jays de Toronto. Ça n'aura pas lieu. Est-ce que ça va être repris éventuellement? Fort possible, mais ce n'est pas confirmé. Les programmes doubles dans le baseball majeur vont compter 7 manches. Chacun, évidemment. Donc, deux matchs de ces manches, un peu comme c'était ici avec la CANAM ou je pense qu'avec la Frontier, c'était la même chose aussi. Là. C'était l'objectif également. Mais des programmes doubles de 7 manches. Alors, on veut être un peu plus réaliste dans l'accomplissement de notre but de se rendre à la fin de la saison dans le baseball majeur. Mike Trout, lui, va s'absenter pour quelques jours. Il s'absente parce que devient père. J'avoue que c'est une bonne raison pour prendre quelques moments, un pas de recul, disons ça comme ça. Toujours au baseball, Pat Scalabrini, on parlait des Capitales il y a un instant, prend les rênes des Alouettes de Charlebourg. Bon, ça marche pas les Alouettes depuis le début de la saison, c'est dans le baseball junior élite, c'est l'équivalent des Remparts de Québec ici, mais au baseball. Frédéric Lajoie, ça a pas du tout fonctionné à la tête des Alouettes de Charlebourg, c'est terminé à la maison, Monsieur Lajoie. Il a remis sa démission. Bon, enfin, 0 et 9 depuis le début de la saison. Je pense que c'était comme ça que ça devait se passer aussi. À un moment donné, ça prend un électrochoc. Et Pat Scalabrini comme électrochoc auprès des jeunes du sport-études qu'il a beaucoup côtoyé, des jeunes qu'il connaît bien, même si lui, il coach les Capitales, mais il les connaît bien, ces jeunes-là. Alors, c'est probablement une très, très bonne idée. Ça risque de changer le cours de la saison des Alouettes de Charlebourg. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Et premier cas de COVID-19 déclaré en F1, c'est Sergio Perez. Oui, c'est le coéquipier de Lance Stroll au sein de l'écurie Racing Point. Positif à la COVID-19, donc ce sera un week-end de vide pour notre ami Sergio Perez, malheureusement, en espérant qu'il n'y ait pas de contamination à plus grande échelle du côté de la F1.
Salut, ici Steph Dupont.
Je réveille Banane qui dort sur le divan, puis je m'en viens.
Non, non, non.
Je vais être là vers 6h, 6h et quelques. Puis en attendant, c'est Pierre Blais qui est là pour le 5h. Fait que Pierre, force-toi donc un peu.
Le Québec vibre au rythme du Canadien. Samedi 19h, les Canadiens affronteront les Pingouins.
Quel arrêt de Price! Il y a quoi un but et le dégagement ensuite!
Le hockey des Canadiens vous est présenté par Essor Assurance. Essor, plus de 60 ans à partager la fièvre du hockey.
Le réseau Cogeco, radiodiffuseur officiel du Canadien de Montréal. FM 93.
Rainfray Volkswagen Lévis vous met au courant avec la e-Golf 100% électrique 2020 à 25 995 $.
Transport et préparation en su, incluant les rabais maximum de nos gouvernements.
Plus de 15 en inventaire. Rainfray Volkswagen.
Autoroute 20, sortie Lévis-Centreville.
Vous cherchez un emploi en aéronautique? Bonne nouvelle! Le service aérien gouvernemental du ministère des Transports est à la recherche de techniciens et techniciennes en aéronautique pour des travaux d'entretien et de réparation sur les aéronefs du service. Le ministère recherche également des pilotes d'avion. Plusieurs postes sont à combler. Pour postuler, rendez-vous à la section Emploi au transport.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
C'est la grande liquidation de hockey chez EcoSport. Des rabais de 30 à 70% vous attendent sur tout. CCM, Power, Sherwood, True. Oui, oui, tout est en liquidation de 30 à 70%. Du jamais vu en début de saison. Premier arrivé, premier servi. EcoSport, Québec et Lévis.
Au FM 93, vous écoutez le 5h avec Pierre Blais.
Ouais, vous pensez que le climat social est ordinaire actuellement un peu partout en province? Bon, vous avez raison, mais ce n'est rien si vous comparez à ce qui se passe actuellement au port de Montréal. Ah, on a eu droit à cette fameuse scène, malheureusement trop typique, de gens qui doivent passer des lignes de piquetage puis qui se font lancer des trucs puis qui se font taper dessus à grands coups de poing puis grands coups de pied sans prendre position quoi que ce soit. Disons que c'est pas tout à fait édifiant en tant que société de voir des images comme celle-là. Je comprends que ça, c'est une position. Là, la position que je ne prends pas, c'est pour un ou l'autre. Là. Peu importe qui l'aurait fait, ça n'aurait pas d'allure. Mais sur une ligne de piquetage, à coup de poing sur la gueule, puis à coup de pied dans la face, puis à coup de pied sur le char, puis j'en reviens pas qu'en 2020, ce soit encore possible, mais... En même temps, on regarde le climat social actuel. Est-ce qu'on est surpris que l'humain soit capable d'aller là? Non, pas tout à fait, en effet. 18 degrés actuellement. Ce sera 25 en après-midi. Peut-être quelques gouttes ici et là, mais rien de majeur pour la journée d'aujourd'hui. 27 pour la journée de demain. 20 % de probabilité d'averse et 60 % de probabilité pour la journée de dimanche et de 10 à 15 mm de pluie. Sans dire qu'on a la certitude que ça va tomber. Mettons que les indices se sentent un petit peu, pointent un petit peu vers là, mettons. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé avec Clémence Desrochers hier soir? Sur Facebook, elle a écrit, je sais pas si c'est elle qui l'a écrit, là. Je n'ai jamais été si malheureuse. Comment peut-on gâcher une entrevue comme ça? C'était pourtant simple. Où étiez-vous, technicien qui avait entendu ce mauvais son? Pourquoi ne pas avoir recommencé? Il y avait un responsable qui était à côté de moi et de Marie-Michel. Vous avez gâché la fête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, visiblement, une émission ou dans un spectacle quelconque. Là. Clémence Desrochers qui écrit ça sur Facebook ce matin. Je vous avoue que je ne suis pas assidûment Clémence Desrochers. Mais quand elle prend la parole, c'est un peu comme Yvon Deschamps. On porte attention, ça nous intéresse. Mais là, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée de quoi il est question. Si vous le savez, 25-2-2-6. OK. Justin Trudeau. On va passer vite là-dessus, là, parce que tout ce qu'il a dit, dans le fond, c'est qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il n'était pas en conflit d'intérêt. Pas rien à se reprocher. Là. Il a principalement axé sur le pas de conflit d'intérêt. Et il ne l'a pas été et il ne l'est pas actuellement non plus. Il dit qu'il s'est excusé toutefois à cause de la perception que l'histoire pouvait créer autour de lui. Il est au courant que sa famille a certains liens. Il n'était pas tout à fait au courant de l'ampleur des liens non plus avec We Charity, qui est un organisme à qui on a attribué la gestion d'un programme. Plusieurs millions de dollars, sans appel d'offres. Bon, ben c'est ça, les apparences qui sont un peu pas mal contre Justin Trudeau et son équipe. Alors, pendant 90 minutes, il a répété qu'il n'avait absolument rien fait pour influencer la décision d'attribuer la gestion de ce programme. Il a dit également que lorsque la fonction publique lui a soumis le nom de l'organisme comme seul gestionnaire possible de ce programme, ben il a douté et il a demandé des vérifications avant de soumettre la proposition finale à son cabinet. Alors voilà, c'était la version de Justin Trudeau qui a passé hier devant ce comité pendant plus d'une heure 30 minutes. Toujours au Canada, actualité canadienne, le Nouveau-Brunswick accepte de laisser entrer certains Québécois. Donc on va assouplir à partir de demain certaines restrictions de voyage pour les résidents des communautés frontalières du Québec. C'est une deuxième série d'amendements. Là. En fait, elle ressemble beaucoup, celle-là, à la première série qui a été annoncée il y a quelques jours. Mais là, on la met en place et surtout, ben la nuance, elle est intéressante quand même. Alors, pour les MRC d'Avignon et de Témiscouata, il y a des Premières Nations également qui sont impliquées. Et ces gens-là peuvent se rendre maintenant, à partir de demain, en fait, au Nouveau-Brunswick pour un déplacement d'une seule journée sans nuitée. Et à ce moment-là, ils ne seront pas obligés de s'isoler pendant 14 jours après leur arrivée au Nouveau-Brunswick. C'est la seule chose qu'on a changée, en fait, dans l'approche. Alors, c'est pas tous les Québécois qui sont les bienvenus au Nouveau-Brunswick. On nous l'a dit longtemps. Est-ce qu'on ferait la même chose? Probablement, si on était dans leur situation. À peu près pas de cas. Pourquoi en importer, hein? Là, vous vous dites, ouais, mais le nous avec Montréal, puis tout ça. Ouais. Mais dans une province ou dans un pays, c'est pas tout à fait la même chose. Remarquez qu'il y a eu des barrages régionaux. Mais remarquez qu'on est déjà pas mal à couteau tiré les uns envers les autres aussi, en tant que société. Des fois, il faut prendre son gaz égal, comme on dit. Masque obligatoire dans les écoles. Québec n'entend pas imiter l'Ontario. Alors, le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, indique que la Direction générale de la santé publique n'a pas demandé à ce stade-ci le port du masque obligatoire dans les écoles. On juge que les mesures en place sont suffisantes pour minimiser les risques de contagion. Alors, ben, grosso modo, on se rappelle comment ça va fonctionner. Là, les écoles vont être autorisées à fonctionner avec les ratios traditionnels jusqu'en troisième secondaire, classe normale. Cependant, les profs vont devoir diviser les jeunes en sous-groupes de 6 élèves au maximum. Et dans ce sous-groupe-là, pas de distanciation physique entre les jeunes. Et on demande qu'il y ait distanciation d'un mètre entre chacune de ces petites bulles qui seront créées, oui, à l'intérieur des classes. Est-ce que c'est réaliste pour tout le monde de créer ça de cette façon-là, cet environnement-là? Mais malheureusement, il y a pas mal autant de réponses qu'il y a d'écoles au Québec. On verra. À partir du quatrième secondaire, le mode hybride sera privilégié, du moins c'est ce qui a été annoncé il y a quelques semaines. Donc 50% du temps minimalement sera passé en classe pour les élèves de secondaire 4 et 5. Mais 50% minimalement, ça peut aussi dire 50% point. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Votre réponse est aussi bonne que la mienne. Pour ce qui est de l'Ontario, parce que c'est la comparaison qu'on fait, le gouvernement de Doug Ford n'a émis aucune précision par rapport à la distanciation physique dans les écoles, mais il n'y aura pas obligatoire du masque de ce côté-là. Stratégie différente, enfin. Québec veut sévir contre les rassemblements hostiles et face aux consignes sanitaires, donc des rassemblements comme celui qu'on a vu la fin de semaine dernière. Québec cherche une façon de s'outiller. Hein, c'est ça l'objectif, de se trouver des outils pour intervenir lorsque les rassemblements ou le non-respect des consignes sanitaires est délibéré et affiché. Madame Guilbeault là-dessus.
Je suis entièrement d'accord sur l'importance du droit de manifester. Je vais commencer par ça. J'en ai parlé lundi quand j'ai parlé de l'éventuel resserrement des mesures répressives. J'ai aussi insisté sur l'importance du droit de manifester, de s'exprimer et tout ça. Puis il n'y a personne qui veut remettre ça en question, entrer dans des débats qui pourraient remettre en question ce droit de manifester, ce droit de s'exprimer et tout ça. Ça, je veux être très, très, très claire là-dessus. Néanmoins, ce que j'ai dit, et je faisais référence entre autres à la collègue journaliste qui avait été approchée physiquement là, contre son gré par deux personnes, c'est qu'on réfléchit à la possibilité de resserrer les mesures répressives et du même souffle, j'aurais pu dire clarifier les mesures répressives parce qu'actuellement, la façon dont c'est fait, l'emprise ou la possibilité d'intervention n'est pas nécessairement claire dans les décrets actuels.
Alors, de cette façon-là, elle réagissait au choix qui a été fait par la Ville de Québec, là, le service de police de la Ville de Québec, plus précisément, de ne pas intervenir dimanche lors de cette manifestation contre le port du masque obligatoire. Elle a également dit, pour les événements où il y a vraiment une dérogation affichée aux consignes de santé publique, un événement qui porte lui-même sur l'adversité envers les consignes de santé publique, il faut être outillé pour pouvoir intervenir. Dans le même point de presse, et c'était probablement l'objet principal du point de presse, Pascal, qui est allé faire un petit tour hier, elle va pouvoir nous en parler tout à l'heure, mais le SPVQ pourra mener des opérations lors de prises d'otages et de fusillades. Donc ça, c'est une chose que la ministre de la Sécurité publique a annoncé hier en compagnie du directeur de la police de Québec, M. Robert Pigeon. Un nouveau pouvoir donc qui sera octroyé à la Ville de Québec. Auparavant, des opérations comme celle-là devaient être dirigées par la SQ si c'était en dehors de la région de Montréal. Donc, ce qu'on comprend, c'est que probablement que le SPVM pouvait le faire et peut encore le faire actuellement. Ben, il y aura la SQ, le SPVM et la police de Québec. Le groupe tactique d'intervention de la police pourra donc intervenir partout sur le territoire de la Ville de Québec ou du Grand Québec, disons ça comme ça, mais également la Sûreté du Québec pourrait mandater la police de Québec pour intervenir dans d'autres régions, et ce pour des raisons logistiques.
Sur l'interopérabilité au sein de nos corps de police, je trouve pertinent que des expertises de pointe, comme celle d'être capable d'intervenir lors de prises d'otages ou d'événements qui impliquent un tireur actif, soient réparties sur le territoire et qu'on ait diverses équipes capables d'échanger, d'entretenir entre elles les meilleures pratiques, de se garder à jour, de se garder qualifié, de se garder entraîné, de pouvoir prendre le relais les uns des autres si, comme je le disais tout à l'heure, pour toutes sortes de raisons, il y a des équipes qui sont appelées sur un autre événement, bien c'est important d'avoir de la relève qualifiée et capable d'intervenir rapidement en termes de proximité géographique. Pour résumer la situation ici, plus d'agilité, plus de proximité, plus d'instantanéité dans la réponse à une situation qui est dramatique pour la personne qui la vit. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi.
Bon, on a évidemment tous fait le lien dans notre tête. Ah oui, et si ça avait été en vigueur il y a quelques années lors de la tuerie de la mosquée, bon, on nous dit que ça aurait pas changé quoi que ce soit parce que le SPVQ a été en mesure d'intervenir rapidement. Ça aurait été moins complexe, mais ça aurait pas amélioré la vitesse de réponse. On n'aurait pas pu empêcher quoi que ce soit parce que vous vous souvenez qu'Alexandre Bissonnette, qui est le tireur en question, ben, s'était sauvé et on l'avait rattrapé éventuellement. Donc, c'est pas, enfin, vous comprenez que dans l'ordre des choses, ça n'aurait pas changé justement grand chose. Tramway. Je sais que c'est lourd comme sujet, mais c'est important. La Ville de Québec doit répondre d'ici aujourd'hui. Le BAB veut savoir plusieurs choses. On veut d'abord savoir si la Ville compte effectuer de nouvelles modifications au projet. On souligne que plusieurs modifications au projet ont eu lieu récemment. Le BAP veut de plus obtenir des exemples d'autres villes qui ont un climat similaire et qui utilisent un tramway et on demande à la ville d'indiquer le nombre de centimètres de neige enregistrés par ces villes en hiver. Le BAP fait remarquer que la ville affirme tenir compte des préoccupations des citoyens. Il demande donc au bureau de projet de mentionner quelles ont été les modifications qui ont été faites en réponse à des préoccupations de citoyens. Le BAP a aussi envoyé deux questions au ministère des Affaires municipales et trois questions au ministère des Transports. Donc, c'est pas seulement la Ville de Québec qui est en cause là-dedans. Les audiences publiques du BAP, je vous rappelle, reprennent le 3 août. C'est lundi prochain, le même jour que revient Steph Dupont. Coïncidence? Probablement. Ça va se passer au Centre des congrès de Québec à 19h, donc en soirée dès lundi prochain. Des séances qui vont se poursuivre au cours des jours suivants jusqu'à ce que tout le monde ait pu se faire entendre. Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ça va coûter 1 milliard de dollars pour rénover le tunnel qui a été construit en 1967. Bon, on dit que c'est le double de ce qui a été avancé par Québec et Ottawa jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas vraiment d'évaluation concrète et officielle des travaux. Donc, on se défend du côté des gouvernements. Non, on n'a pas mentionné 500 millions, puis finalement, c'est 1 milliard. Bon, sachez que c'est 1 milliard que ça va coûter. On dit qu'on n'a pas le choix de demeurer vague lorsque l'appel d'offres est lancé. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas donné de chiffres plus précis jusqu'à maintenant. Maintenant, à partir de 2022, parce que c'est à ce moment-là que les entraves majeures vont commencer, il y aura au moins, vous avez bien entendu, là, au moins 2 des 6 voies de circulation du tunnel qui seront fermées, de jour comme de nuit, pendant 2 ans. Remarquez qu'ils sont habitués de vivre avec Turcot qui est en rénovation depuis 2009. Ça achève-tu cette histoire-là? Pour atténuer les retombées, une voie réservée au covoiturage et au transport en commun sera construite à partir de Sainte-Julie jusqu'au tunnel. Tiens-toi. Alors, est-ce que ça va permettre ces rénovations-là? Prolonger de 40 ans la durée de vie du tunnel. On va reconstruire les murs, la voûte, la chape de béton du tunnel. En gros, on refait pas mal tout. On répare l'acier de l'armature qui a été endommagé par le sel. On va nouvel éclairage. Ça, ce sera pas un luxe, par exemple. Nouvel éclairage dans le tunnel, des meilleures caméras de surveillance également. Et on va améliorer la ventilation et la protection d'incendie. Mais juste pour l'éclairage, ça vaut la peine de s'y pencher. Parlant de dossier sur lequel ça vaut la peine de se pencher, la Cour suprême accepte d'entendre l'appel de l'humoriste Mike Ward. Oubliez Mike Ward, oubliez Jérémy Gabriel, oubliez quoi que ce soit dans cette histoire-là. Pensez simplement au fait qu'on va se pencher sur la question « C'est quoi la liberté d'expression? Jusqu'où peut aller un artiste dans sa liberté d'expression? » Est-ce que ce sera une réponse finale à cette question-là? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Toutes les situations sont différentes les unes des autres. On le sait. C'est comme ça que ça marche. Puis on n'est pas tout à fait surpris. Quand même, le fait que la Cour suprême se penche là-dessus, accepte de se pencher sur la question, ben moi, je trouve ça bien intéressant. Très, très intéressant. Alors, le débat concerne les limites de la liberté d'expression artistique, affirme l'avocat Julius Gray. Et la Commission des droits de la personne et des droits de la... Julius Gray, c'est l'avocat de Mike Ward, évidemment. Là. La Commission des droits de la personne, de son côté, indique qu'il importe de clarifier notamment l'équilibre entre la liberté d'expression et le droit à l'égalité dans l'exercice ou non du droit à la sauvegarde, donc de la dignité, de l'honneur, de la réputation. On parle d'équilibre ici, là. On a clairement mis le doigt dessus en disant on va répondre à la question, mais peut-être pas à toutes les questions, puis peut-être pas à toutes les éventuelles, à tous les éventuels dossiers portant là-dessus. Mais quand même, ce sera un intéressant, très intéressant dossier à suivre. Je termine avec un fait divers un peu beaucoup malheureux. Un conducteur qui ne s'est pas arrêté après avoir fauché un garçon hier vers 9h30 à l'intersection des rues Saint-François et Dupont. Donc, c'est un ado qui a été victime d'un délit de fuite lorsqu'il était lui à vélo. Un délit de fuite, c'est un char, là, vous aurez compris. L'adolescent a subi des blessures légères aux bras et aux jambes. Sa vie n'est pas menacée. La police de Québec interroge actuellement des témoins de l'accident dans le but d'obtenir une description du véhicule, mais également du conducteur impliqué, parce que oui, le conducteur, faudrait qu'on le retrouve puis lui dire « Hey, oh, ça va? »
Le 5 heures avec Pierre Blais.
Un vrai de vrai.
De retour après la pause.
93.
Dès le 10 août, au 93.
Une émission qui va droit au but. Une nouvelle approche. Un angle nouveau.
Dès le 10 août, 10 heures.
Un show flambant neuf au 93. Mais je vous dis pas avec qui. Faites vos recherches.
Dès le 10 août, au 93.
Indice, ils ont des noms de famille de premiers ministres.
C'est pas clair.
Ça, c'est moi toute seule au chalet. Ça, c'est moi toute seule, sans mes collègues de travail. Ça, c'est moi toute seule chez moi, de 9 à 5, puis de 5 à 9. Puis ça, ben, c'est moi, toute seule, avec moi.
On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Vous avez un immeuble à revenu à vendre? Peu importe s'il a besoin de réno ou non, il l'achète rapidement chez Airfortin.com. Un terrain, une maison, un immeuble qui a besoin de réno ou non, à vendre dans la région de Québec, Airfortin.com est votre acheteur. Airfortin.com.
Avec l'arrivée de l'été, Rona a demandé à des rénovateurs comment ils se sentent à l'idée de sortir travailler dehors.
Ben, regarde-moi le sourire.
Marcos, parce qu'on est à la radio.
Ah, oups, excusez. Regarde-moi le sourire!
Les gens ne voient pas.
Non, mais ils m'entendent.
Le meilleur de la maison est dans votre cour. Chez Rona, obtenez 40 % de rabais sur une vaste sélection de produits saisonniers et plus encore. Dans les magasins participants, des conditions s'appliquent. Rona.
Au FM 93, vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais.
5h29. Ouais, 5h29, on est dans les temps, tout va bien. Ça roule au FM 93. 18 degrés actuellement à Québec, ce sera 25 en après-midi au maximum. 27 pour demain, de la pluie, ça ira dimanche, probablement. 29 degrés pour dimanche, mais surtout de 60 % de probabilité d'averse de 10 à 15 mm. Ah ouais, c'est plate de même. Un petit tour au 25, 226. D'abord, les chauffeurs du RTC qui nous soulignent qu'ils sont d'abord à l'écoute et qui nous saluent. Hey, tabarouette, salut la gang. Puis je vais en profiter pour dire salut à mon préféré. Je n'ai un préféré. Puis dans le fond, j'ai pas pris l'autobus depuis un bon bout de temps. Puis, mais Chris Milo, l'ancien batteur du Rouge et Or, qui est maintenant chauffeur au RTC, a complété sa formation et qui est maintenant actif. Salut Chris et salut à la gang du RTC. Content de vous savoir à l'écoute. Si on peut vous aider à passer à travers un petit matin comme ça à cette heure-ci, là, 5h30, des fois c'est plate un peu d'ouvrir les yeux. Mais tant mieux, on vous salue. Clémence, ah cool, Clémence était à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada. Et c'est vrai que le son de son entrevue était pourri. Ah, ok, ben voilà. Et elle a pris la parole sur les réseaux sociaux pour le dire. Merci à l'auditeur qui nous a écrit pour nous raconter le fin fond de cette histoire. Je vais vous lire un statut Facebook sur la page Facebook de Pascal CV. Entre, je l'ai pris quelque part entre le 15 mars et... t'es revenu en studio quand, Pascal? Oui. Il y a un mois à peu près?
Ouais, au moins.
Alors, disons entre le 15 mars et le 30 juin, disons ça comme ça. Je n'ai jamais été aussi malheureuse. Comment peut-on gâcher... Là, c'est écrit une entrevue, je veux dire, une émission de radio comme ça. C'était pourtant simple. Où étiez-vous, technicien, qui avait entendu ce mauvais son? Pourquoi ne pas avoir recommencé? Il y avait un responsable qui était à côté de moi et de toute l'équipe de Dupont le matin. Vous avez gâché l'émission.
C'est moi qui ai écrit ça?
Ben non, c'est Clémence Desrochers. J'ai juste adapté. Elle n'est pas contente du son hier soir à l'émission. Puis là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui n'était pas contente de son son il n'y a pas si longtemps. Puis avec raison. Mais c'est correct. Écoute, quand il faut expliquer une boutade, elle est peut-être pas si bonne que ça.
Non, mais moi, je te croyais juste mot pour mot. Ah, oui, fait que alors, je suis pendue à tes lèvres. Qu'est-ce que j'ai écrit? Mais je suis stressée.
J'étais donc très convaincant.
OK,
d'abord.
Mais écoute, je suis absolument d'accord avec toi. J'ai aussi partagé hier une magnifique vidéo d'un faux Stéphane qui fait du wakeboard sur mon compte Facebook.
Ah, ça. Et puis là, explique-nous ça, là, parce que Steph vous, a publié ça sur sa page. Moi, je l'ai vu. J'étais sûr que finalement, il était devant sa TV parce que je veux pas voler le punch non plus.
Non, écoute, on va le voler, OK?
OK. À cette heure-ci, on là, spoil oui, le Facebook à Dupont.
On assume. Puis hier, quelqu'un qui m'a dit que j'avais spoilé la garde des trucs en disant que le chien meurt.
Ah, oh, ouais, il meurt. Cléo, Chloé, je sais pas trop quoi, le chien, là, meurt.
Oui.
Maudite affaire.
Donc, hier, Stéphane publie encore une magnifique vidéo de lui, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Puis moi, je la vois avec mon cellulaire, puis je vous le jure, je viens de le voir sur l'ordinateur. Bon, c'est un peu plus flagrant que c'est pas lui qui est sur la planche de wakeboard.
Ah.
Mais on voit vraiment une personne qui lui ressemble faire du wake et il écrit « Hey, wake surf, check ». Facile avec un bon prof. Fait que tu vois le faux Stéphane faire du wake.
Le faux Stéphane.
La caméra se retourne vers Stéphane bien relax qui prend un petit verre. Oh là 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 là.
Mais là, il est sur le bateau. Là. Il n'est pas devant sa 85 pouces. Là.
Il fait pencher le bateau par en arrière.
Ah, ça c'est chiant.
Ça c'est ça.
C'est vrai qu'au départ, on pense que c'est Stéphane. Puis après ça, on se rend compte que c'est pas Stéphane. Il manque un peu de Stéphane dans le chandail.
Ce gars-là, hein, il fait de la télé, c'est incroyable.
Hey, il va être de retour lundi, hein, l'ami Stéphane. D'ailleurs, le meilleur de la business. Tous les autres sont très bons, mais lui, c'est le meilleur de la business. Fait qu'il faut faire avec. Il va être de retour lundi matin pour son spectacle à 6 heures, bien précise.
Spectacle, c'est bien dit. C'est très bien dit.
Ah, c'est un spectacle.
C'est un spectacle,
bien sûr.
Soyez là. Bien des choses dans les nouvelles ce matin, mais c'est beaucoup des suivis. Je vais commencer par contre, je sais que tu en as parlé, mais cet adolescent qui circulait à vélo dans Saint-Roch hier matin, qui a été heurté par une voiture, c'est un conducteur qui s'est pas arrêté après avoir fauché le garçon vers 9h30 à l'intersection direction des rues Saint-François et Dupont. Il a subi des blessures légères aux bras, aux jambes. Sa vie n'est pas menacée, heureusement. Mais là, la police de Québec interroge plusieurs témoins de l'accident. On veut retrouver cette personne
ben
qui
oui,
s'est sauvée.
Ben oui, faudrait,
hein? Oui, absolument.
Caroline.
Mais quelle histoire, quand même. Je pense pas qu'il y a un moment où tu t'en rends pas compte, là. Tu cherches à
pourtant,
trouver le meilleur de la personne, tu comprends, dans
ouais,
la vie.
Oui, puis j'ai totalement la même approche. Je veux pas croire que quelqu'un peut partir volontairement. C'est quoi la réaction, tu sais? Je veux dire, tu viens de frapper quelqu'un en basic avec ton char, puis tu t'en vas? Quel genre de personne es-tu?
C'est ça. Non, c'est atroce
enfin,
de lire ça ce matin.
Si la personne est à l'écoute, là, rapportez-vous, là. Peut-être pas trop tard, là.
Ce serait le moment.
Ouais.
Heureusement, bon, l'adolescent a été blessé légèrement. Puis je le répète parce que je pense que c'est la bonne nouvelle dans cet accident.
Parce que ça se peut là, que la personne soit à l'écoute parce qu'on dort probablement pas très bien après avoir fait quelque chose d'aussi ridicule que ça.
Incroyable. Mmh. Moi, je voudrais savoir en plus comment il va. Là, puis en tout cas, je comprends pas. Autre nouvelle qui m'a fait vraiment élargir les pupilles ce matin, à Brossard, il y a des résidents qui ont été évacués pendant quelques heures parce qu'ils ont trouvé une grenade.
Une grenade de... Excusez, là, je suis vraiment
dans mes...
Non, là, je suis dans Sans Limite. Okay. Je passe d'un groupe à l'autre. Mais c'est correct, excuse-moi, j'interromperai pas. Une grenade?
Une grenade dans un immeuble. Hey, tu fais-tu le saut?
Oui.
Je fais le saut quand je lis la nouvelle. Imagine tomber face à face avec ça. Puis, tu sais, ça n'a pas l'air d'un jouet pour enfants, là. C'est vraiment une grenade en fer, en acier, là, lourd, là. Et finalement, ils ont tous été sortis, évacués de l'immeuble. Ils ont pu réintégrer leur domicile. Ce qu'on dit là, du côté des policiers, c'est qu'il n'y avait rien de criminel ou d'intentionnel. Et les artificiers de la Sûreté du Québec ont quitté avec la grenade. L'endroit a été sécurisé. C'est tout ce qu'on a
c'est
su.
C'est tout ce qu'on sait.
C'est fou, là.
Mais c'est pas... OK, c'est pas criminel.
C'est pas criminel. Mais quelqu'un qui avait une grenade, puis ça s'est retrouvé dans un immeuble.
Mmh.
Fou, hein?
Ouais.
Mmh. Quelle drôle de nouvelle ce matin. Vendredi. Toutes sortes de personnes. C'est ça qu'il faut retenir.
Voilà.
Sinon, Québec, on va rester dans la thématique grenades puis armes et tout ça. Le groupe tactique d'intervention qui se voit vraiment être un peu plus au sein du SPVQ. Je dis ça parce que quand on avait besoin d'eux, souvent, il fallait passer par la Sûreté du Québec. C'est comme ça que ça arrivait. Là. On avait besoin d'eux souvent quand il y avait un tireur actif où les situations étaient un petit peu plus intenses. Un homme barricadé, on l'a vu dans les dernières semaines. Il y en a eu quelques-uns et souvent, le groupe tactique d'intervention sont sur place pour aider les policiers à faire leur travail. Ça reste que c'est un corps policier.
Mm-hmm.
Hier, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, elle a annoncé que maintenant, le service de police de la Ville de Québec va se voir confier le droit d'intervenir pour un tireur actif avec, justement, son équipe du GTI. Normalement, il intervenait, mais justement, il y avait une administration à faire en arrière de ça. Donc, bon, oui, allô, Sûreté du Québec, on a besoin de votre groupe tactique. Oui, donc, parfait, on va les envoyer.
Ben, c'était lourd.
C'est lourd, mais c'était surtout long. Imagine-toi, là, tu te fais enlever, séquestrer, puis là, t'attends qu'il y ait du secours, puis il faut qu'il y ait une administration en arrière de ça.
Ouais.
Quand du côté de Montréal... Depuis un bon petit bout, eux, ils ont la possibilité au SPVM de sortir leur équipe, justement, du GTI. Alors, je vous laisse un peu, Geneviève Guilbeault, vous parler des avantages ce matin.
Sur l'interopérabilité au sein de nos corps de police, je trouve pertinent que des expertises de pointe, comme celle d'être capable d'intervenir lors de prises d'otages ou d'événements qui impliquent un tireur actif, soient réparties sur le territoire et qu'on ait diverses équipes capables d'échanger, d'entretenir entre elles les meilleures pratiques, de se garder à jour, de se garder qualifié, de se garder entraîné, de pouvoir prendre le relais les uns des autres. Si, comme je le disais tout à l'heure, pour toutes sortes de raisons, il y a des équipes qui sont appelées sur un autre événement, bien, c'est important d'avoir de la relève qualifiée et capable d'intervenir rapidement en termes de proximité géographique. Pour résumer la situation ici, plus d'agilité, plus de proximité, plus d'instantanéité dans la réponse à une situation qui est dramatique pour la personne qui la vit. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi.
Merci, bon. Mme Guilbeault. Très bien résumé. Alors, voici l'avantage de permettre cette fonction au service de police de la Ville de Québec. Il y avait aussi le directeur du SPVQ qui était sur place, M. Pigeon, qui lui a vraiment précisé, ils sont tous entraînés pour ça. Ils ont absolument tout le matériel pour le faire. Ils ont eu les formations, les meilleures formations. C'est vraiment un corps de police. On n'a pas à douter de leurs compétences. Et ça coûtera combien? 0 $. Car on a tout. Et c'est déjà prévu dans l'enveloppe budgétaire. Est-ce une décision qu'on attendait qui soit prise dans les 10 dernières années? Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus.
Ouais.
Et en 2016, on a réécrit la demande clairement. Ça a été mis peut-être plus rapidement sur le dessus de la pile de papier à gérer là quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Et Geneviève Guilbeault l'a dit, pour moi, c'était quelque chose à faire très, très, très rapidement. Et justement, il était très heureux de nous annoncer ça hier.
Ce qu'ont dit les autorités, c'est que en 2017, lorsqu'est survenue la tuerie de la mosquée, toutefois, oui, ça n'aurait rien changé, en ce sens que le SPVQ est intervenu rapidement, puis il n'aurait pas pu intervenir plus rapidement à la mosquée pour éviter des morts. Parce que, bon, Bissonnette a été traqué sur l'autoroute, là, vous souvenez certainement de l'histoire. Mais enfin, là, c'est quand même important de le mentionner, là. Semble-t-il qu'à ce moment-là, ça n'aurait rien changé. On ne sait pas, là, on n'est pas policiers, puis eux le sont. Donc, on va être obligé de les croire, mais quand même.
Mais c'est quand tu regardes ce genre d'événement-là, puis ça a été nommé, là, quand même, noir sur blanc, là, ça a été mis hier en avant-plan, que oui, la mosquée de Québec fait réfléchir et a fait peut-être accélérer les choses.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Donc, ouais, c'est un événement triste, mais qui a fait peut-être avancer certaines décisions.
Ouais.
Mais hier, on a aussi parlé durant ce point de presse-là des masques et des anti-masques des gens qui manifestent vraiment un peu partout au Québec en ce moment parce qu'ils ne sont pas d'accord de porter le masque obligatoirement. Pour des gens, ben, c'est important de faire la nuance. Mais hier, Mme Guilbeault en a parlé de ces gens-là.
Je suis entièrement d'accord sur l'importance du droit de manifester. Je vais commencer par ça. J'en ai parlé lundi quand j'ai parlé de l'éventuel resserrement des mesures répressives. J'ai aussi insisté sur l'importance du droit de manifester, de s'exprimer et tout ça. Puis il y a personne qui veut remettre ça en question, entrer dans des débats qui pourraient remettre en question ce droit de manifester, ce droit de s'exprimer et tout ça. Ça, je veux être très, très, très claire là-dessus. Néanmoins, ce que j'ai dit, et je faisais référence entre autres à la collègue journaliste qui avait été approchée physiquement là, contre son gré par deux personnes, c'est qu'on réfléchit à la possibilité de resserrer les mesures répressives et du même souffle, j'aurais pu dire clarifier les mesures répressives parce qu'actuellement, la façon dont c'est fait, l'emprise ou la possibilité d'intervention n'est pas nécessairement claire dans les décrets actuels.
Et je vais enchaîner tout de suite avec M. Robert Pigeon qui parle de cette situation précise-là, de la journaliste là, qui s'est fait enlacer par deux personnes.
Oui.
Parce qu'on lui a posé, OK, est-ce que vous aviez tous les outils pour arrêter ces deux hommes-là si vous vouliez le faire? Est-ce qu'il vous manquait une poigne là, dans votre intervention? Et lui a dit non, on a fait tout ce qu'il fallait. Écoutez.
Bien, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est qu'on n'a rien laissé aller parce qu'avant même que Mme Bourassa ne porte plainte, on était déjà dans un processus d'identifier ces deux personnes-là dans le but, parce qu'il y a deux approches. Il y a celle du rapport d'infraction générale, celui-là était déjà considéré avant la prise de plainte. Et pour aller vers une mise en accusation au code criminel, naturellement, ça nous prend la version de la personne parce que ça aurait pu être carrément des amis, ça aurait pu être carrément quelque chose d'autre où il n'y avait pas d'intention criminelle derrière. Donc, les policiers doivent évaluer tout ça. Et maintenant qu'on a la version claire de Mme Bourassa, on procède à la deuxième étape à ce moment-là.
Alors, c'est très, très clair comme explication.
Ouais, c'est clair pour les démarches par la suite, là. Mais on the spot, si les policiers ont aperçu ça puis qu'ils ne sont pas intervenus, la question demeure entière.
Il faut poser les questions. Moi, c'est vrai, par exemple, du côté des deux parties, ça, c'est intéressant. Si les policiers étaient à proximité et qu'ils n'ont pas tourné la tête vers elle en demandant est-ce qu'on intervient, justement, en se demandant si elle sentait pas en sécurité tout ça, là, ça, c'est une autre affaire. Elle a sûrement été questionnée par la suite, mais c'est intéressant de voir...
On the spot, je pense que si les policiers avaient aperçu ça, s'étaient rendus compte de ça, là, ils avaient vu l'événement survenir, je suis persuadé qu'ils seraient intervenus. J'ai de la difficulté à croire le contraire, là. En tout cas, j'avoue que c'est une question qu'on aurait dû poser à la police de Québec. On va la poser. On va obtenir l'info, c'est sûr.
Parce à savoir s'ils l'ont vu, parce qu'hier, c'est Robert Pigeon là, qui
commentait la chose. Ouais, je sais pas s'ils l'ont vu, honnêtement.
Mais je veux dire, la question que tu voudrais poser au service de police de la Ville de Québec, c'est quoi?
Ben, en fait, il y en a deux. Puis il y en a la deuxième va venir si la première, c'est oui. L'avez-vous vu? Puis si vous l'avez vu, il y a deux questions nécessairement. Si oui... Pourquoi êtes-vous pas intervenu? Puis sinon, seriez-vous intervenu si vous l'aviez vu? Tu sais, je veux dire, c'était clair qu'il y avait quelqu'un pas de masque, qui a deux personnes pas de masque qui ont enlacé une journaliste qui est en train de faire son travail. Il y a évidence qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si un policier aperçoit ça, il doit intervenir.
Parce que ce que je viens de vous faire d'entendre, c'est la réponse de M. Pigeon à la question du genre, bon, vous trouviez pas que ça valait justement une intervention policière? Cette situation-là. Et si cette situation-là n'en valait pas d'intervention policière, qu'est-ce que ça va prendre? Et ça a été la réponse.
Ah oui, ouais. OK, OK. Je pensais qu'on avait simplement demandé où on en est dans le dossier. Là, après, il y a eu dépôt de plainte. Qu'est-ce qui peut se passer, tout ça? Ah, OK.
C'est ça qui était intéressant dans la réponse.
Oui, inquiétant aussi, je dirais. Mais en tout cas, ça, c'est mon commentaire à moi, là. OK. Ben merci de la précision. On continue.
On continue avec Justin Trudeau, le premier ministre qui a encore une fois été sous les feux de la rampe hier. Il comparaissait, en fait, il témoignait là, pour l'affaire Uni. Il a affirmé n'avoir jamais fait quoi que ce soit pour favoriser l'octroi d'un contrat sans appel d'offres à cette organisation. Il a comparé, comme je vous disais, devant le comité parlementaire des finances hier après-midi à Ottawa. Bon, il a assuré qu'il n'était pas un ami des fondateurs de l'organisme, même s'il s'agit de connaissances de longue date. Et il a aussi dit là, que c'est jamais placé en conflit d'intérêt dans cette affaire-là. Et hier, le chef bloquiste Yves-François Blanchet n'était pas très heureux de cette réponse. Il dit, ça prend quoi, entre autres, pour congédier le ministre? Et combien de fois aussi? Ça prend combien de fois où qu'il y a une écartade politique dans ce genre de dossier? Parce que c'est pas la première fois au gouvernement Trudeau.
C'est vrai que la ligne de l'opposition depuis quelques semaines, c'est l'accumulation des bourdes du côté de Justin Trudeau. Oui. Effectivement, je pense qu'ils font bien de plancher sur ce clou-là. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est pas ça la question. Tu sais, si j'étais dans l'opposition puis que j'étais stratège de l'opposition, j'irais là-dessus. C'est une taille qui semble prometteuse, disons
oui.
Ça comme ça.
Oui. Le BAP revient dans l'actualité après un envoi de 42 questions la semaine dernière.
Hey.
Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a envoyé de nouvelles interrogations au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun à propos du tramway. C'est 34 questions complémentaires qui ont été envoyées mercredi et qui doivent être répondues d'ici quand? D'ici 9 heures ce matin.
Ah alors, oui, d'ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de ces questions-là? J'en ai ici des questions très intéressantes. Le BAP veut savoir si la Ville compte effectuer de nouvelles modifications au projet et souligne que plusieurs modifications au projet ont eu lieu récemment. Tout à fait pertinent. Le BAP, en fait, veut savoir... Il va y avoir d'autres exemples, d'autres villes avec un climat similaire à Québec qui utilisent un tramway et on veut indiquer le nombre de centimètres de neige enregistrés par ces villes en hiver. Ça semble assez pertinent. Il y en a d'autres comme ça.
Il y en a 34 comme ça.
Ouais.
Ouais. Et ça doit être répondu.
Je vais le répéter là, parce qu'on se fait tellement... On est dans une période très polarisante de notre existence. Je suis totalement pour le projet de transport en commun structurant, mais pas de la façon qui est menée là, pas actuellement, pas du tout.
Je pense que
je veux juste la préciser.
Dont la majorité, c'est le cas.
Ouais.
Et je termine en vrac avec deux nouvelles du côté des États-Unis. Les États-Unis qui ont enregistré hier 1379 nouveaux décès dus au coronavirus en une journée. C'est les chiffres de l'Université Johns Hopkins, mm-hmm. dont l'AFP fait état. C'est le troisième jour consécutif où le pays compte plus de 1200 morts en 24 heures. De loin, là, les États-Unis, c'est le pays le plus touché. Là. On déplore au total 151 826 décès liés à la COVID-19. Et Donald Trump qui a parlé d'élection hier, je vous en parlais durant l'émission à la toute fin, mais il a vraiment émis l'hypothèse de reporter la présidentielle de novembre. Selon lui, bon, et en passant, il est très en retard dans les sondages hein, face à son adversaire démocrate. Là. Il a fait un tweet dans lequel il prétend que la prochaine élection va être la plus frauduleuse de l'histoire parce que les votes par la poste seront permis. Et beaucoup de spécialistes s'entendent pour parler d'une stratégie du désespoir.
Ben, puis on se demande même si sa sortie pour le masque la semaine dernière n'était pas un peu liée à tout ça parce que effectivement,
c'est
il y a beaucoup
de... C'est un gros volte-face. Ouais,
c'est un méchant changement d'orientation. Enfin, c'est le président Trump. On n'est pas à une surprise près, hein, disons ça comme ça. Merci beaucoup, Pascal.
À tantôt.
Salut, ici Steph Dupont. Je fais un petit mot croisé, vite, puis je m'en viens.
Non, non.
Je vais être là vers 6h, 6h et quelques. Puis en attendant, c'est Pierre Blais qui est là pour le 5h. Fait que Pierre, force-toi donc un peu.
Nous sommes nombreux cette année sur les routes du Québec. Et en cas de besoin d'une pause café, d'une pause santé ou d'une pause les enfants se peuvent plus, puis moi non plus, il me semble qu'on serait dû, passer dans l'un des 42 villages relais du Québec pour s'arrêter en toute sécurité avant de repartir faire le plein de souvenirs. Un message du gouvernement du Québec.
Tout le monde en place pour un repas à la bûche. Ma gang de bûcherons du dimanche. Venez vous en voir comment est-ce qu'on a réinventé la cuisine de mamie. Vous allez ressortir bien rond, puis vous verrez plus jamais vos plats traditionnels de la même manière. Entre le bello et le château, venez nous voir à la bûche.
Chez Raymond Chabot, on sait que la santé, ça inclut aussi vos finances. Si votre situation est fragile, faites votre bilan de santé financière au raymondchabot.com ou parlez gratuitement à un conseiller syndic autorisé en insolvabilité. 1-855-R-CHABOT.
FM 93. Vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais.
Y a-t-il quelqu'un ici qui veut parler à Jean Brière?
Non. Quand le train passe et qu'il te fascine, t'as pas juste à envoyer la main. Saute dans le train.
C'est ça, Gus. Laisse-moi parler tout seul.
Alain nous écrit au 25226. C'est sûr que c'est un geste inacceptable, mais une charge criminelle de voie de fait, pas sûr. Ben, je vous avoue que la question mérite tout à fait d'être posée. Puis moi, je soulignais que, sur le coup, est-ce que les policiers auraient pu intervenir pour au moins dire, excusez, vous pourriez peut-être la laisser travailler? La question aussi se pose. 18 à Québec en ce moment, ce sera 25 en après-midi, à moins de 40 % de probabilité d'averse. On ne le mentionne pas. 27 pour demain, très belle journée. 27 pour dimanche, ça s'annonce comme une journée de bouette. Si je vous donne les chiffres, je peux vous les donner. Là. 60 % de probabilité d'averse de 20 à 25 mm. Mais je ne suis pas là pour vous faire peur. Alors, ça a le temps de changer dans deux jours. Monsieur Ray, comment allez-vous?
Bonjour Pierre, ça va bien?
Ah, c'était une entrée dynamique, ça.
Mais c'est Pierre.
Oui,
c'est
vous bien.
Êtes Pierre.
C'est bien ça.
C'est vous, ça?
Le jour où je serai méo, je vais...
Ah oui!
Ça fait 40 ans que j'ai la grippe.
C'est pas un objectif, ça. D'atteindre son méo?
Non, atteindre son méo, non. Tu sais que metteur en onde, c'est méo, hein, l'abréviation.
Oui,
donc,
oui,
je suis un peu méo à ma façon.
Oh oui.
Mais
très bon méo.
Moins de top.
Excellent méo.
T'es gentil.
On a complété hier les matchs hors concours dans la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, il n'y a pas de match, il y aura des entraînements. Puis demain, se met en branle la ronde de qualification. Et un petit peu plus tard, dimanche, il y a les premiers matchs de la round robin. Le tournoi à la ronde, parlons français.
Oui.
Et le bleu-blanc-rouge sera d'ailleurs en action demain soir, 20h.
Les nôtres.
Le Canadien contre les Penguins de Pittsburgh dans une série au meilleur de 5 matchs.
Mm.
Vous le savez déjà.
Ça va être au meilleur de 3, je pense.
Ah oui, hein?
Oui.
L'Optimips ne s'est pas amélioré.
Non, j'ai...
Fur et à mesure que la semaine avançait.
On y croit pas beaucoup, non.
Non.
Écoute,
peu de gens croient au changement.
Sans blague. Tant mieux si ça fonctionne pour le
l'idéal,
Canadien.
L'idéal, c'est... en fait, pas l'idéal, mais les 20 joueurs qui porteront le chandail du Canadien, s'ils y croient, ils se donnent une chance.
Il y a ça, oui.
Mais s'il y a des récalcitrons dans ça, ben là...
Ah oui, y a-t-il des récalcitrons, à ton
chez
avis,
le Canadien.
Au sein du CH?
C'est pas impossible. Évidemment que de perdre contre Pittsburgh, ben là, il va y avoir une frénésie aussitôt que le Canadien va être éliminé contre les Pingouins. Ensuite, c'est le 10, je crois, la loterie
Alexis,
pour Alexis Lafrenière.
Alexis.
Pendant quelques jours, il va y avoir un genre de buzz, là. Ça pourrait être aussitôt que mercredi, l'élimination du Canadien.
Ouais.
Le 10 étant l'autre semaine, lundi le 10 pour la loterie Alexis Lafrenière. Donc,
c'est
pendant quelques jours, il y aura une certaine folie qui va s'installer.
Sauf que je me frotte les mains trop vite.
Non, ça va. Tu peux te frotter les mains quand tu veux.
Tu pars en vacances quand, toi, Ray?
Ce soir, pas ce soir, ce matin, parce que nous, on finit pas le soir, on finit le matin.
Fait que t'es pas là la semaine prochaine.
Les deux prochaines.
Les deux prochaines. Tu seras pas là pour nous annoncer la bonne nouvelle.
Non, c'est ça.
Je n'y serai pas consciencieux, j'en reviens
pas. Je n'y serai pas, mais je vais assurément jeter un coup d'œil intéressé
oui.
À la situation.
J'imagine.
Donc, quatre autres séries se mettent en branle demain également. New York Rangers contre la Caroline, ça va être très bon. Chicago Edmonton, je pense que c'est ma série préférée de la ronde de qualification. Il y en a quelques-unes, là. La Floride contre les Islanders, ça c'est plus ou moins. Je pense que c'est ma moins intéressante,
ouais.
Ça. Les Panthers contre les Islanders. Et en fin de soirée, Winnipeg-Calgary.
Oh.
Oui, ça ce sera très, très bon, effectivement.
Ouais.
Deux clubs canadiens qui s'affrontent dans la ronde de qualification. Hier, juste mentionné que Columbus a battu Boston 4-1. J'ai trouvé que les Blue Jackets ont joué un fort match. Eux affronteront Toronto à compter de dimanche. Ce ne sera pas piqué des verres comme
ça
série.
Peut être bon, ça.
Nashville a blanchi Dallas 2-0. Dallas était privé des services de Tyler Seguin et n'a pas fait grand-chose en attaque non plus. Puis Vegas a gagné hier soir 4-1 contre l'Arizona. Deux nouvelles dans ce match qui m'intéressent. Marc-André Fleury était le gardien, donc il y a de bonnes chances qu'il soit le gardien de confiance pour débuter la ronde le tournoi à la ronde. Les Golden Knights jouent le tournoi à la ronde dans l'Ouest, sont assurés d'une place en série, mais ensuite, on verra pour leur classement. Et il y a eu un coup de coude à la tête d'un joueur des Golden Knights hier, Ryan Reeves. On pourrait bien avoir notre première suspension de la relance de la Ligue nationale de hockey. Un coup à la tête de Nick Schmaltz des Coyotes de l'Arizona. Ce sera revu assurément par le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey. Outre ça, la NBA, ben c'est reparti depuis hier. Il y avait deux parties, deux matchs très serrés qui sont décidés à la toute fin. Utah a battu la Nouvelle-Orléans et les Lakers ont vaincu les Clippers pour les champions en titre Raptors de Toronto. Ça commence demain soir, premier de 8 matchs pour compléter la saison régulière. Et ensuite, ce seront les séries éliminatoires dans quelques semaines. Tout ça se passe dans la ville bulle d'Orlando pour ce qui est de la NBA où ça va très bien côté test positif à la COVID-19. Tout est contrôlé.
Comme au
un
baseball.
Peu comme la Ligue nationale de hockey.
Ah,
oui, effectivement. Et parlons baseball, justement. le chiard est pris.
Ah.
Oui. Il y a des mots meilleurs que ça encore. Là. Ça va pas très bien. Les Marlins et les Phillies de Philadelphie n'auront pas joué cette semaine, puisqu'hier, on a fermé les installations des Phillies. Il y a deux cas dans l'entourage de l'équipe. Un coach et un membre du personnel. Ça allait bien, là. Pendant deux jours, on a eu des tests négatifs pour tous les membres de l'organisation des Phillies, mais hier, ce que l'on craignait est arrivé. Deux tests positifs et automatiquement, bien, on a dit qu'il n'y aura pas de série en fin de semaine entre Toronto et Philadelphie. Ça fait quand même deux équipes où on a plusieurs matchs à reprendre. D'ailleurs, en ce sens, hier, on nous a annoncé dans le baseball majeur que si on jouait des programmes doubles, et il y en aura éventuellement, bien, ce seront deux matchs de 7 manches à compter de demain dans le baseball majeur. Exceptionnel à la saison 2020.
Ouais.
Ça restera pas comme règlement. Puis évidemment qu'on comprend qu'on a tellement de matchs à jouer en peu de temps et il y aura des programmes doubles avec la situation urgente versus la COVID-19. Donc, on prend une bonne décision, je crois, en ce sens.
Absolument. L'affaire, c'est que là, à un moment donné, la saison des Marlins, va falloir y réfléchir sérieusement.
Une semaine qu'ils jouent pas.
Ils pourront pas jouer des programmes doubles comme les Expos faisaient en fin de saison à chaque fois parce qu'il pleuvait tout le temps début d'année. Là.
Rapidement, là, la semaine prochaine, il va y avoir une décision qui devra être prise là-dessus. Puis je termine avec Patrick Scalabrini qui reprend du service pour le reste de l'été. Succède à Fred Lajoie. Les Alouettes de Charlebourg sont 0-9 en ce début de saison. Et M. Lajoie a remis sa décision. Patrick Scalabrini était sur son PCO.
Viendrais-tu coacher, s'il vous plaît?
À être père de famille, mais avec du temps un petit peu, alors il a accepté. C'est une bonne nouvelle.
Ah, pour les Alouettes, pour c'est tous. Une excellente nouvelle, effectivement.
Voilà.
Merci, M. Ray. Right.